VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, Abdourahmane Dia pour vous présenter cette édition de 18h30 GMT du mardi 2 mai 2017. Au sommaire, nouvelle attaque ciblant l'armée malienne, 9 soldats y ont perdu la vie. Rencontre entre les deux principaux protagonistes de la crise libyenne, le général Khalifa Haftar et le premier ministre du gouvernement d'Union, Fayez al-Sarraj. Plus d'un million d'enfants menacés de malnutrition aiguë en Somalie. L'UNICEF tire la sonnette d'alarme. La Chine demande l'arrêt du système de défense antimissile déployé en Corée du Sud par Washington. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et le sport. Mais tout d'abord, le journal. 9 soldats maliens ont été tués dans une embuscade entre Dogofri et Nampala, dans le centre du pays. 5 militaires ont également été blessés. On écoute le porte-parole de l'armée malienne, le colonel Diaran Koné, au téléphone de Modibo Dembélé.
Aujourd'hui, effectivement, entre midi et 13h, nous avons un élément de ravitaillement famant, donc sur l'axe Nampala-Diabali, qui est tombé dans une embuscade. Malheureusement, nous déplorons la perte de près de 9 de nos personnels, 2 véhicules perdus, et il y a aussi 5 blessés. Nous déplorons tous ceux qui prennent le rétablissement et se présenter leurs condoléances. Maintenant, l'occasion est opportune pour nous aussi de nous saisir de votre micro pour en appeler à toutes les bonnes volontés, notamment aux populations, qu'elles puissent intervenir et dénoncer par la voie qui sert de mieux toute tentative, toute suspicion. Et sans cela, la lutte antiterroriste n'est vraiment plus une question purement militaire, c'est une question transverse, c'est une question pour tout le monde. Donc j'en appelle à l'esprit de compréhension de tout le monde.
Vous n'avez aucune idée sur l'identité des assaillants?
Pour l'instant, l'identité des assaillants, c'est des actes terroristes, tout simplement.
C'était le colonel Diaran Koné, porte-parole de l'armée malienne. Au Nigeria, 13 personnalités influentes ont appelé le président Muhammadu Buhari à prendre un congé maladie alors que son état de santé fait toujours l'objet de spéculations. Le chef de l'État nigérian s'est rendu à Londres en janvier pour y subir des traitements. Il est rentré à Abuja affaibli 7 semaines plus tard, laissant les rênes du pouvoir à son vice-président pendant quelques jours. Depuis une semaine, le président Buhari n'a pas pris part aux réunions du gouvernement et n'a pas assisté à la prière du vendredi comme à l'accoutumée. Au Sénégal, le ministre de l'Énergie et du Développement des Énergies Renouvelables, Tierno Alassane Sall, a été démis de ses fonctions par décret présidentiel. Selon un communiqué du gouvernement, le premier ministre Mohamedou Boun Abdallah Dione est nommé cumulativement avec ses fonctions au ministre de l'Énergie et du Développement des Énergies Renouvelables. Les raisons de limogeage ne sont pas encore connues. Le Burundi fait face depuis plus d'une semaine à une très grave pénurie d'essence. Le gouvernement explique cette pénurie par le manque de devises alors que le pays est plongé depuis 2 ans dans une grave crise politique. La pénurie a provoqué une forte hausse du prix de l'essence au marché noir qui a triplé par endroit. Plus d'un million d'enfants sont menacés de malnutrition aiguë cette année en Somalie et courent des risques très élevés de mourir, a averti l'UNICEF ce mardi. Le point avec Tatiana Mosso.
La projection du nombre d'enfants qui souffrent ou souffriront de malnutrition aiguë a augmenté de 50% depuis le début de l'année à 1,4 million, a déclaré une porte-parole de l'UNICEF, précisant qu'il s'agissait de projections pour 2017. Les enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère courent des risques 9 fois plus élevés de mourir que les enfants bien nourris. En 2011, la dernière famine en Somalie a tué au moins 260 000 personnes, dont la moitié d'enfants de moins de 5 ans, selon le programme alimentaire mondial. La Corne de l'Afrique est touchée par une grave sécheresse qui a déplacé plus de 615 000 personnes en Somalie depuis novembre dernier, alors que le pays comptait déjà quelque 1,1 million de déplacés. L'appel de fonds d'urgence de l'ONU de 720 millions de dollars pour la Somalie est financé à hauteur de 58%, a indiqué mardi Jens Lear, porte-parole du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU.
Les deux principaux protagonistes de la crise en Libye, Fayez al-Sarraj, chef du gouvernement d'Union, et le maréchal Khalifa Haftar, se sont rencontrés aujourd'hui à Abu Dhabi. Le point avec Idriss Fall.
le maréchal Khalifa Haftar a rencontré ce matin Fayez al-Sarraj à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. D'après la chaîne de télévision libyenne 218, les deux rivaux ont posé pour les photographes avant de s'entretenir à huis clos et rien n'a filtré à l'issue de leur discussion. Un premier tête-à-tête entre les deux hommes a déjà eu lieu en janvier 2016, peu après la désignation de M. Sarraj à la tête du gouvernement basé à Tripoli. Ils devaient se retrouver à la mi-février au Caire pour négocier des amendements à l'accord politique signé en décembre 2015 sous l'égide des Nations Unies. Cet accord ne prévoyait aucun rôle pour M. Haftar, dont les forces contrôlent une grande partie de l'Est libyen. Après cette rencontre avortée, M. Sarraj avait estimé qu'une occasion précieuse a été manquée pour trouver un début de solution à la division et aux souffrances des Libyens.
Des hommes armés non identifiés ont attaqué un convoi de la police égyptienne près de la principale rocade du Caire, tuant 3 policiers et en blessant 5 autres. Selon le ministère de l'Intérieur, la police a répliqué au tir des assaillants visant les véhicules et les prenant en chasse dans une tentative d'appréhender les responsables.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump s'est entretenu au téléphone avec son homologue russe Vladimir Poutine. Le point avec John Linden.
La présidence américaine n'a pas précisé de quoi les deux dirigeants vont parler. Depuis son entrée en fonction, Donald Trump a déjà discuté au téléphone avec Vladimir Poutine à 2 reprises. Le 28 janvier, les deux hommes avaient abordé la lutte contre le groupe État islamique pendant un appel de félicitations du président russe. Et lors du dernier appel, le 3 avril, M. Trump avait assuré de son soutien à la Russie, endeuillée par un attentat à la bombe qui a fait 15 morts dans le métro de Saint-Pétersbourg. Les liens entre les États-Unis et la Russie sont observés à la loupe. Les services de renseignement américains ont affirmé que des hackers dirigés par le Kremlin ont accédé au réseau informatique de la direction du Parti démocrate avant la présidentielle américaine. La Russie a démenti régulièrement toute ingérence dans ces élections américaines. Le FBI examine les liens entre des membres de l'équipe de campagne Trump et le gouvernement russe. Parallèlement, le Pentagone mène des enquêtes sur les paiements d'entreprises russes à Michael Flynn, ancien conseiller à la sécurité nationale.
La Chine exige l'arrêt du système de défense antimissile dont les États-Unis ont annoncé lundi la mise en service en Corée du Sud. Les précisions de Timothée Donangmai.
Le Terminal High Altitude Defense, TAD, est un bouclier censé protéger la Corée du Sud de missiles tirés par la Corée du Nord. Il a une capacité initiale d'interception, mais les travaux doivent se poursuivre dans les prochains mois pour le rendre entièrement opérationnel, ont fait savoir des responsables américains de la défense. La Chine estime que c'est une menace potentielle et s'oppose au déploiement du système TAD en Corée du Sud. Nous appelons les parties concernées à arrêter ce déploiement immédiatement et nous prendrons fermement des mesures nécessaires pour défendre nos intérêts, a déclaré Geng Shuang, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Il s'est dit encouragé par les dernières déclarations du président Donald Trump, qui a assuré lundi être prêt à rencontrer le leader nord-coréen si toutes les conditions étaient réunies.
En France, 5 hommes ont été arrêtés dans plusieurs villes et des armes saisies par les services antiterroristes. Deux armes de poing et 2 fusils mitrailleurs ont été retrouvés lors des perquisitions à 5 jours du second tour de la présidentielle. En Belgique, une commission d'enquête du Parlement a recommandé d'accélérer et d'améliorer la prise en charge des victimes d'actes de terrorisme. Beaucoup avaient critiqué les lourdeurs et les lenteurs du système belge dans les mois qui ont suivi les attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles. Selon un membre de la commission d'enquête, les victimes ont témoigné des nombreux problèmes auxquels elles ont été confrontées concernant leur prise en charge les mois qui ont suivi l'attaque. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a averti que son pays était prêt à dire au revoir à l'Union européenne si celle-ci n'ouvre pas de nouveaux chapitres de négociations avec Ankara sur son adhésion. Ces déclarations surviennent alors que les relations entre Ankara et Bruxelles, houleuses depuis le putsch manqué du 15 juillet en Turquie, se sont fortement tendues pendant la campagne pour le référendum constitutionnel qui a permis à M. Erdogan de renforcer ses pouvoirs. Au moins 10 soldats irakiens ont été tués ce mardi dans une embuscade du groupe État islamique dans la province d'Al-Anbar, où les djihadistes multiplient les attaques contre les forces de sécurité depuis 10 jours. Depuis le 23 avril, au moins 26 membres de l'armée, de la police et des gardes frontières ont été tués dans cette région de l'Ouest dont l'organisation État islamique s'était emparée en 2014. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco présentée ce soir par Jacques Aristide.
Le Sénégal et la Côte d'Ivoire veulent accélérer leurs échanges commerciaux. Plus de 45 ans après la signature d'accords commerciaux entre les deux pays, c'est du moins ce qui ressort d'un forum sur les partenariats économiques sénégalo-ivoiriens pour l'intégration régionale et l'émergence qui s'est tenue récemment à Abidjan. Selon des participants, les deux pays n'ont pas encore exprimé toute leur potentialité dans les domaines du commerce et de l'investissement, d'où la nécessité de nouvelles initiatives, notamment du secteur privé. La production tunisienne de phosphate a augmenté de 46% au cours des trois premiers mois de cette année par rapport à la même période l'an dernier. Elle a atteint 1,33 million de tonnes. Le ministère tunisien de l'énergie attribue cette hausse au fait que la principale région productrice de phosphate dans le sud connaît moins de mouvements sociaux comme les grèves et sit-in. Les exportations de phosphate et le tourisme sont des piliers de l'économie tunisienne. Le Fonds monétaire international estime que l'Égypte doit faire du combat contre la montée de l'inflation une priorité pour pouvoir améliorer son économie. Une mission du FMI est actuellement dans le pays pour passer en revue les réformes économiques entreprises par le gouvernement du président Abdel Fattah al-Sissi. Le Caire attend de recevoir la deuxième tranche d'un programme de prêt sur 3 ans de 12 milliards de dollars du FMI.
Eric Manirakiza, bonsoir.
Bonsoir.
Donc c'est la page des sports et on démarre en football. La première demi-finale ce soir en Ligue des Champions. Les deux Madrid encore face à face.
Le Real reçoit l'Atlético pour une revanche des finales 2014 et 2016 remportées par le club merengue. Éternel gagnant dépend de son voisin Colchonero. Le théâtre de l'affiche de ce soir, Abdou, se produit dans le luxueux stade de Santiago Bernabéu, tandis que le match retour le 10 mai se jouera au stade de l'antique Vicente Calderón. Moins de 10 kilomètres séparent les deux voisins. Ce derby oppose donc un Madrid qui gagne et qui veut continuer de gagner à un Madrid qui voudrait gagner et y parvenir enfin. La Ligue des Champions étant la seule ultime marche qui reste aux Colchoneros. Rendez-vous à 20h45, temps universel.
Et demain, Eric, le Monaco de Mbappé contre la Juventus de Buffon.
Paulo Dybala, numéro 21 de la Juventus, au talent de grand numéro 10, sera le danger numéro 1 pour Monaco. Abdou, il y a deux maillots mythiques à la Juventus. Le 10 qui a été porté par Michel Platini, Roberto Baggio, Del Piero ou pendant un an seulement Paul Pogba. Pogba est le 21, celui de Zidane, de Pirlo et de Dybala. Son doublé face à Barcelone en quart de finale l'a élevé au rang de quasi-messi et de candidat possible au Ballon d'Or dans un très proche avenir. Cependant, il faut dire que Monaco est très en forme en ce moment. Pourquoi pas effacer les larmes de 2015, Abdou? C'était un quart de finale de Ligue des Champions qui s'était joué sur un pénalty face à la Juventus. Une rencontre entre jeunes loups et vieux renards.
35e journée du championnat d'Angleterre, le plus beau but du millier de Liverpool, Emre Can.
L'international allemand de 23 ans a repris de voler une passe en profondeur, le but de Lucas Leiva dans 6 heures retournées en pleine lucarne dans le temps additionnel de la première période. C'est le plus beau but que j'ai jamais marqué, s'est réjoui Can au micro de Sky Sports. Liverpool est actuellement 3e de Premier League, 3 points devant Manchester City et 4 devant United qui comptent tous deux un match en retard.
Athlétisme à présent, le 2A veut remettre à zéro les records d'Europe.
La Fédération européenne d'athlétisme envisage de remettre à zéro tous les records d'Europe. C'est en réponse aux doutes qui entourent certaines performances datant d'une époque marquée par le dopage. La date reste à définir, Abdou, pour les inscrire dans une catégorie ancien record d'Europe. Ceci a provoqué effectivement la colère des athlètes détenteurs de records.
Merci beaucoup, Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Bienvenue dans cette deuxième partie consacrée au dossier du jour, les violences. Se poursuivent dans le Kasaï en République démocratique du Congo. 5 inspecteurs de l'éducation nationale ont été décapités dans le village de Mukonde alors qu'ils devaient superviser les épreuves nationales du baccalauréat. Eddie Isango a joint sur place le coordonnateur provincial de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, maître Adrien Ilakoubué.
Nous confirmons l'information parce que il y a même parmi les 5 là, mon beau-père qui fait partie de ceux-là qui étaient décapités. Pendant que je vous parle, il y a 2 chez lui à la maison. On a retrouvé à peu près 3 corps sans tête. Ils ont été surpris entre Bungonde dans leur jeep. Ils ont été interceptés. On les a appelés pour les descendre. Ils sont descendus. On leur a demandé de se présenter. Ils se sont présentés et le milicien leur a dit « La mission à laquelle vous allez, il n'y a ni prêtre ni sœur. Tout le monde a pris. » Les inspecteurs leur ont dit « Si tel est le cas, vous pouvez nous autoriser et rebourser chemin. » Bon, ils ont exigé de l'argent. Ils se sont cotisés, ils ont donné de l'argent, mais par après, ils ont été appelés d'aller se présenter devant leur chef. On ne sait pas c'était quel chef. Ils sont allés, ils ont laissé tous leurs biens là-bas. Et au niveau de ces villages-là, ils ont été décapités.
Mais les violences continuent dans cette partie du pays de la RDC, alors qu'une solution a semblé être trouvée et le gouvernement a permis la désignation d'un nouveau chef et a remis le corps de l'ancien chef Kamena Nsapu à sa famille qui a été enterrée selon le rituel traditionnel.
Ils sont là au son des cloches, ceux-là qui estiment que le chef a été abattu, et ceux-là qui soutiennent que non, le chef est bel et bien vivant. Ce sont ces adeptes qui continuent toujours à tracasser la population et au jour d'aujourd'hui, et puis, il faut reconnaître que la situation est incontrôlable parce que ces miliciens-là n'ont pas quelqu'un qui les dirige. C'est comme ça que tout leur est permis. C'est comme ça qu'eux s'opposent contre le nouveau chef qui a été choisi par la famille régnante.
On apprend qu'ils exigeraient la mise en application plutôt de l'accord et la désignation de Félix Tshisekedi.
Ça, c'est le groupe qui a déposé les armes. C'est ce groupe-là qui revendiquait l'application de l'accord.
On parle de plus en plus de cas de décapitation à part les experts de l'ONU, leurs accompagnateurs, des policiers, mais un peu chaque jour, on parle de cas de décapitation. Par quoi cela s'explique-t-il?
Maintenant, c'est devenu un véritable règlement de compte. Lorsque je ne m'entends pas avec Eddie et Sango, il faut aller vite voir le milicien pour leur dire que non, voilà ce que Eddie m'a fait. Et les miliciens viennent là, ils vous appellent, si vous répondez, ils vous posent des questions, vous payez des amendes, ils vous laissent. Et si vous refusez d'aller répondre à leur justice, à ce moment-là, ils montrent des stratégies pour vous arrêter à n'importe quel endroit. Ils vous décapitent sans aucune forme de procès.
C'était maître Adrien Ilakoubué, coordonnateur provincial de l'Association congolaise pour l'accès à la justice au Kasaï central.
Dans Washington Forum ce jeudi, la journée mondiale de la liberté de la presse. Après les baisses d'audience parmi les médias traditionnels, la diminution des profits et les allégations d'une déconnexion croissante entre les médias et leur public, la prolifération des fausses informations et les faux reportages sont les défis les plus récents auxquels fait face le secteur. Où en est la liberté de la presse à travers le monde? Comment défendre l'indépendance des médias? Ou comment se portent les médias dans votre pays? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 20h temps universel avec Timothée Donangmaï et ses invités.
En République centrafricaine, selon Human Rights Watch, 45 personnes ont été tuées et 11 000 déplacés ces 3 derniers mois suite à des attaques de groupes armés sur des civils. Le pays sort à peine d'une guerre civile meurtrière. Et pour un état des lieux, Solange Nyamulisa a joint Lewis Mudge. Il est chercheur à Human Rights Watch de la division Afrique.
Donc, l'IWAF Human Rights Watch, on continue d'être tellement inquiété par rapport à la situation au centre du pays. Depuis la fin de 2016, il y a 2 groupes des ex-sélecteurs qui continuent de s'affronter entre eux. et le niveau de cette violence continue d'augmenter. Donc, en novembre 2016, en décembre 2016, en janvier et en mars 2017, et maintenant en avril et mai 2017, on a constaté plusieurs dizaines de civils qui étaient tués et ciblés d'ailleurs par des groupes armés. Lorsqu'on parle de groupes armés dans cette zone, on parle de deux groupes des ex-lesquels, les FPRC et les IPC. Donc, bien sûr, il y a la présence des Nations Unies, mais selon New Human Rights Watch, cette nouveau de gens qui continuent d'être tués, c'est complètement inacceptable.
Et pourquoi la reprise des violences?
Le reprise des violences, c'est entre deux groupes des ex-lesquels. Ils ont commencé de s'affronter par rapport au contrôle de mines dans la zone. La province de la Waka, c'est une zone avec beaucoup de mines d'or. Donc, ils ont commencé de s'affronter entre eux au mois de novembre 2016 par rapport de contrôler les mines.
Et est-ce que vous pensez que le pays risque de basculer de nouveau dans une guerre civile?
C'est difficile de dire que, en fait, il n'y a pas une guerre civile actuellement. Le pays, ce n'est pas stable. La capitale, Bangui, et le sud-ouest du pays, ils sont plus ou moins stables là-bas. Mais le nord-ouest et le centre du pays, on ne peut pas dire que c'est stable. Au sud-est, nous avons toujours la présence de la LRA de Ouganda. Et les forces ougandaises et les forces américaines viennent annoncer qu'ils vont quitter cette zone. Donc ça va créer encore le travail pour les MINUSCA, pour les forces onusiennes de faire, parce que le sud-est, on estime que le sud-est, ça va être très chaud très bientôt.
C'était Lewis Murchie, chercheur à Human Rights Watch de la division Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Au Tchad, difficultés dans l'éducation des enfants réfugiés de Centrafrique installés dans quatre camps du département de la Niapende, région du Logone oriental. Les élèves quittent les salles de classe pour se lancer dans des activités qui leur donneront un peu d'argent pour assurer leur survie. André Kodmajinga est allé à la rencontre de ces réfugiés. Voici son reportage.
Salut. Il est 11h, heure locale. Nous sommes dans la salle du cours préparatoire moyen de l'école communautaire du camp de Gondje. Dans cet établissement, le taux de fréquentation est en baisse. Le directeur de la dite école, Mandinganoji André, donne les chiffres comparatifs de ses élèves.
L'année passée, j'ai 1230. Cette année, je me retrouve avec 628 élèves, dont 289 garçons et 238 filles. On a 8 bâtiments de 32 salles. Mais on fonctionne avec 13 salles pour le moment.
Le secrétaire général du camp de Gondje, Dumkel Armand, explique les raisons de cette déperdition scolaire.
Selon les parents, c'est la réduction de vivres et puis la suspension de vivres dans d'autres catégories qui a fait que les enfants n'ont pas pu avoir la nourriture nécessaire pour leur survie. Donc eux-mêmes se lancent à la recherche des pailles ou des fagots pour aller vendre afin de subvenir à leur pays.
L'assistant en éducation de l'ONG Accra, Serferbe Blaise, confirme le faible taux de fréquentation des élèves dans les écoles de trois autres camps, notamment Amboko, Dossé et Doulou. Il informe par ailleurs que même les établissements publics de la zone sont touchés.
Le taux est effectivement en baisse contrairement à l'année passée, parce que quand on voit déjà, le nombre est presque à la moitié de l'année passée. Et là, ce n'est pas seulement les écoles du camp qui sont touchées. Sur les 136 écoles que le département abrite, les 33 écoles publiques sont fermées.
Moïmoune Rum Victor, proviseur du lycée mixte de Timbiri dans le département de la Niapende, où fréquentent les élèves réfugiés et autochtones, nous fait le point.
L'année qui était presque
blanche. Le gouvernement a tout fait pour que l'année ne soit pas blanche. Et quand on a repris en janvier, pour beaucoup d'élèves, c'est que l'année est déjà passée et que ça ne sert absolument à rien de venir perdre le temps ici. Donc il y en a qui reviennent, mais ça ne dépasse même pas la moitié des 700 élèves que nous avons prévus au début. En terminale, je vous dis que je suis avec 7 élèves seulement. C'est presque chaque jour que le nombre des élèves diminue.
En 2016, les statistiques des élèves dans les camps étaient de plus de 5000 élèves régulièrement inscrits. Mais pour l'année en cours, l'effectif global est de 4054 élèves réfugiés centrafricains dans les 4 camps. André Kodumadingar Gore dans le département de la Niapende pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Retour sur le rhinocéros, espèce menacée d'extinction. La Côte d'Ivoire tente de protéger le seul animal qui en reste en Afrique de l'Ouest. Reportage de notre correspondant à Abidjan, Ibrahim Tunkara.
Il y a une vingtaine d'années, l'ancien président sud-africain Frédéric de Klerk offrait à son homologue ivoirien Félix Houphouët-Boigny un couple de rhinocéros blancs. De ce couple est né un jeune rhinocéros. Si l'on est jusque-là sans nouvelles du couple, sans doute tué par des braconniers, le petit rhinocéros a quant à lui grandi et erre dans des villages dans la région de Dimokro, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Seulement voilà, la mort il y a quelques semaines d'un chef de village tué par ce rhinocéros va rendre la cohabitation difficile. L'inquiétude s'est emparée des villageois qui veulent en découdre avec l'animal. Pour le gouvernement ivoirien, il faut sauver aussi bien les villageois que le rhinocéros, d'où le transfert dans quelques jours de l'animal vers un parc privé. Un transfert qui sera mené par des spécialistes sud-africains. Le Diakité, propriétaire de la réserve qui va accueillir le rhinocéros.
On fait venir une équipe de vétérinaires experts d'Afrique du Sud pour s'assurer qu'elle sera faite dans de très bonnes conditions. Ensuite, il y a la capture, le transport, le réveil. Ce sont des opérations très très délicates, donc qui peuvent être faites que par des experts. Ensuite, il sera en quarantaine pendant un certain moment, dans ce qu'on appelle un boma, où on va le nourrir avant de le relâcher à l'état naturel.
Pour le directeur général des eaux et forêts, en plus du rhinocéros, d'autres espèces sont également menacées dans les forêts ivoiriennes.
Les lions, on a des traces mais on ne les voit plus. Et c'est ce qui nous a amené à importer des lions d'Afrique du Sud qui sont aux zoos aujourd'hui. Et déjà, nous avons eu 8 lionceaux. Il y a les panthères qui sont en voie de disparition. Il y a les pangolins qui sont en voie de disparition. Et surtout l'éléphant qui est l'emblème de la Côte d'Ivoire qu'on doit protéger à tout prix. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire une nouvelle loi sur la faune et sa protection pour encadrer mieux encore la protection de ces animaux. Mais aussi, il faut que nous puissions sensibiliser les populations que ces espèces-là sont protégées intégralement.
Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets débat. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, il y avait Lionel Gaïma. À la console, Wojtek Zorniak. Présentation, Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM, Bamako. Raga FM, Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.